Bonjour à tous, merci d'être présents. Je m'appelle Julien Alvarez, je travaille donc dans un laboratoire consulaire qui s'appelle le Play Research Lab. C'est un laboratoire qui a ouvert ses portes en janvier dernier.
Donc je recommence, Julien Alvarez, donc je travaille dans un laboratoire qui a ouvert ses portes en janvier dernier, qui s'appelle le Play Research Lab, et sa vocation est de faire du prototypage et de l'évaluation de jeux, et notamment de serious games, pour des applications médicales ou pour de la formation. Donc dans le cadre de cette présentation que nous allons commencer, on va essayer de poser des concepts et des définitions autour du serious game dédié à la santé. Alors, de manière simple, qu'est-ce qu'un health game ? C'est un jeu dédié à la santé. Alors, comment ça se compose ? C'est une équation toute simple. On a du jeu, potentiellement vidéo, c'est pour ça que c'est mis entre parenthèses, mais toute forme de jeu peut nous servir dans cette équation, des jeux de cartes, des jeux de société, des jeux de rôle, des jeux de plein air, et du jeu vidéo. Et on va l'associer à un scénario ou à une fonction utilitaire qui a une orientation santé. Et le tout nous donne donc un health game. Donc les health games rentrent dans la grande famille des serious games. Donc si on devait définir maintenant les fonctions utilitaires qu'on peut associer au jeu, elles sont assez simples. Donc on a trois grandes familles. La première, c'est de permettre, par exemple, de faire de la prévention sur trois niveaux. Donc le premier niveau de prévention, c'est avant que la maladie ne survienne. Donc ici, vous avez des exemples de serious game. Alors, vous avez Happy Night. L'auteur est dans la salle. Il se trouve en haut. Il s'appelle Laurent Ono. Donc, c'est la société Succubus. Et vous avez aussi un autre serious game qui s'appelle Deliver the Night. Alors, à quoi servent ces deux applications ? La première, Happy Night, c'est la ville donc de Nantes qui avait commandité tout simplement une campagne sur la prévention contre l'alcool. Donc c'était d'expliquer aux jeunes que l'alcool, bon, on pouvait en consommer, mais avec modération et donc dans des conditions bien particulières et à respecter. Et Deliver the Net, donc là, c'est un serious game qui a servi en fait à expliquer dans un pays africain l'utilisation et l'usage et l'utilité, pardon, des moustiquaires pour éviter que certaines maladies ne se propagent. Alors, le deuxième niveau de prévention qu'on peut associer donc à l'utilisation d'un jeu, c'est éviter que la maladie ne s'aggrave. Donc là, par exemple, vous avez un jeu qui s'appelle Elude, qui a été fait par des étudiants à Singapour et qui ont questionné la dépression et voir si on pouvait expliquer à l'entourage d'une personne dépressive ce qu'est la dépression. Parce que c'est pas évident quand on voit quelqu'un de dépressif, on peut se dire, bon, on va le secouer un petit peu, il va se lever et ça va aller mieux. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc l'idée, c'est à travers ce jeu de sensibiliser l'entourage à ce que peut être un état dépressif. Ensuite, donc, troisième niveau de prévention, ben là, c'est la maladie, malheureusement, est installée, et elle est devenue chronique, il va falloir la gérer. Donc vous avez ici un jeu qui a été fait donc par Zippyware, dont une des représentantes est Aurore Guillaume, que vous entendrez tout à l'heure. Et donc c'est le jeu Time Out qui est sorti en 2011 et qui est un jeu d'aventure qui vous plonge dans une histoire où vous devez gérer le diabète dans les différents événements que vous allez devoir affronter. Ensuite, on peut avoir une dimension message qui s'écarte de la prévention à destination des pensions et qui s'adresse davantage donc aux professionnels de santé. Donc ici, vous avez par exemple les laboratoires Pfizer qui avaient demandé à ce qu'on explique aux médecins qu'il existait différents types de dosages de médicaments ou, dans le cas de Multac à droite, comment fonctionnaient concrètement les molécules de ce médicament pour permettre un meilleur fonctionnement cardiaque. Ensuite, la deuxième grande famille de fonctions utilitaires qu'on peut associer à un jeu, ce sont les jeux qui permettent de dispenser un entraînement. Donc ici, vous avez des applications santé qui sont grand public. Donc vous avez évidemment la Wii Fit qui a été une application très répandue, qui est très répandue dans les maisons de retraite notamment. Et vous avez à droite donc le Dr Kawashima qui a pour fonction de vous permettre de dispenser un entraînement sur le plan cognitif cérébral. Alors, il s'est avéré, d'après une étude, que l'efficacité des jeux proposés par le docteur Kawashima était équivalente aux jeux du Mickey Parade. Donc, vous avez le choix. Si vous préférez Mickey, vous pouvez avoir les mêmes bénéfices qui en ressortiront d'après cette étude. Alors, évidemment, là, il ne faut pas confondre ce qui est de l'ordre du domaine de la santé, du domaine médical, pardon, et de ce qui entre dans le domaine du paramédical. Alors là, il s'agit effectivement de jeux qui rentrent plutôt dans la sphère du paramédical, c'est-à-dire ce sont des produits que les professionnels de santé peuvent éventuellement recommander pour améliorer l'état de santé de patients, mais ce n'est pas du tout à visée thérapeutique, on est bien d'accord. Ensuite, on a des applications qui sont très très intéressantes et qui permettent, par exemple, dans le cas de Flower for All, de permettre aux patients, et notamment aux enfants, de gérer la douleur lorsque on doit intuber un enfant. Et là, l'idée, c'est de détourner son attention grâce à un petit jeu. Et ensuite, vous avez Mojos qui s'adresse à un public plus adulte en général, puisqu'il s'agit des personnes qui sont touchées par des AVC. Malheureusement, ça peut être n'importe qui d'entre nous. Et là, il s'agit d'opérer de la rééducation fonctionnelle, c'est-à-dire récupérer la fonction motrice d'un bras grâce à ce jeu, où on va essayer, par des jeux de pointage, de stimuler le patient de manière à ce que, lorsqu'il effectue ses séances d'ergothérapie, le patient puisse, comme ça, être stimulé par une contextualisation, c'est-à-dire qu'on lui propose des choses concrètes à regarder, attraper des objets, attraper des ballons, faire des exercices qui vont permettre au patient, comme ça, de donner une action concrète à ce qu'ils doivent effectuer comme exercice. Enfin, nous avons des applications qui servent aussi à la formation des professionnels de santé. Donc là, vous avez par exemple Pulse, qui est une application, un serious game, qui vise donc à aider les médecins urgentistes à diagnostiquer de manière rapide ce que peut avoir un patient comme symptôme, et puis ensuite essayer de diagnostiquer quels sont les problèmes à résoudre chez ce patient. Et puis ensuite, vous en avez un autre à droite qui s'appelle Triage Trainer, qui vous plonge en fait dans une situation où, après un attentat ou après un accident, il va falloir apprendre à trier les victimes par ordre d'urgence ou d'importance à traiter. Donc on affecte en fait à ces différents patients des badges de couleur en fonction du degré d'urgence. Dernière grande famille qu'on peut identifier dans la famille des Health Games, ce sont les jeux associés à des bases de données. Donc vous avez à gauche un jeu qui s'appelle donc Fold It. Ce jeu, il a été développé par des chercheurs aux États-Unis et leur idée, c'est qu'il faut, dans ce jeu qui se présente comme un casse-tête, apprendre à plier tout simplement des protéines. Et ces protéines sont au départ assez faciles à plier. Et puis, plus on avance dans le jeu, plus ça devient compliqué. Tellement compliqué qu'en fait, si vous arrivez à trouver une solution, ben vous allez ouvrir des perspectives pour les chercheurs qui ont mis en place ce jeu. Et donc leur idée, c'est de convoquer en fait l'intelligence collective, c'est-à-dire la capacité des joueurs qui sont sur Internet à trouver des solutions pour essayer de faire avancer leurs travaux de recherche. Et en 2011, il y a un enfant de 10 ans qui a résolu un jeu, enfin un des niveaux, et qui a permis de faire une avancée significative dans la lutte contre le sida. Donc c'est assez intéressant de le noter. Et puis ensuite, vous avez le jeu Roger, qui est un jeu qui a été développé donc, par Fishing Cactus, qui sont des acteurs belges, dont certains représentants sont ici présents dans la salle, et qui, en fait, sont assez... Donc c'est Belle Productions, bien sûr, qui est présent, mais vous représentez les Belges. Et ce que je veux dire, c'est que ce jeu Roger est assez intéressant parce qu'il sert à essayer de diagnostiquer les déficiences cognitives qui se présentent chez des patients lorsqu'ils sont en train de jouer à ce jeu. Et donc, ça permet notamment de voir si la personne est victime d'un pré-Alzheimer ou d'autres types de pathologies cognitives. Donc, si on devait donner une définition de Health Game, vous avez deux conditions à remplir. La première, c'est que vous ayez une fonction utilitaire qui soit associée, donc diffuser un message dans le domaine de la prévention, par exemple, dispenser un entraînement, permettre la collecte de données. Et deuxième grande fonction à remplir, c'est évidemment un marché qui vise celui de la santé. Si vous avez ces deux conditions qui sont réunies, normalement, vous êtes face à un health game. Alors, est-ce que ce type de jeu est réellement nouveau ? En fait, quand on s'amuse à explorer l'histoire, on se rend compte que les Japonais, dès les années 84, avait déjà mis en place un jeu d'aventure, donc qui est Princess Tomato, et qui en fait avait pour vocation de faire de la prévention à l'hygiène alimentaire. Donc c'est intéressant. Puis après, on en voit un autre côté États-Unis qui a pour vocation en fait de vous sensibiliser au problème de la drogue, donc ça s'appelle Drug Watch, et qui lui en fait avait pour but de vous dire que bon, ben, utiliser la drogue c'est pas bien, et donc il fallait combattre justement les personnes qui essayaient de vous picouser. En France, on trouve aussi des applications, alors un peu plus tardivement, à la fin des années 80. Donc on a par exemple Le Sida et nous, qui est un jeu qui se voulait éducatif et qui avait pour vocation de vous sensibiliser à la problématique de la pandémie autour du sida, comment le sida se transmettait et comment on pouvait essayer de résoudre, d'endiguer cette pandémie. Et c'était pas évident, en fait, parce que on s'aperçoit que, par exemple, si dans le jeu, on vous propose d'enfermer les personnes qui sont touchées par le sida et faire en sorte que, du coup, puisqu'on les a repérées et enfermées, toutes les autres personnes peuvent tranquillement vaquer à leurs occupations et avoir des rapports, il s'avère que ce n'est pas si simple que ça, puisqu'il y a aussi la question d'être séropositif, et du coup, la propagation de la maladie est encore plus forte. Donc, en dehors du fait que c'est condamnable sur un plan humain d'enfermer des gens, évidemment, on voit que ça ne résout aucunement certains problèmes qu'on pourrait penser régler assez facilement. Donc, ce jeu questionne ces aspects-là et montre que finalement, la réponse ne se trouve pas dans une approche manichéenne et qu'il va falloir donc composer avec beaucoup, beaucoup de paramètres. Le deuxième jeu est un jeu qui vous sensibilise au problème donc du diabète, qui s'appelle Capitaine Novoline, et qui vous plonge dans la peau d'un personnage qui est diabétique et qui joue, enfin qui se trouve dans un jeu de plateforme. Et vous vous rendez compte que si l'alimentation n'est pas adaptée ou si vous ne faites pas vos piqûres d'insuline à intervalles réguliers, ben votre personnage va s'évanouir et donc vous aurez perdu. Alors, pour faire rapidement, que représente aujourd'hui le marché du Health Game ? Donc, déjà, ce qui est intéressant de voir dans ce schéma, c'est que vous avez ici une segmentation des marchés du Serious Game de 1952 à 2009, et on s'aperçoit qu'en fait, le marché de la santé représente, par ordre d'importance, le quatrième marché, c'est-à-dire derrière l'éducation, la publicité, les produits caritatifs, et la santé vient en quatrième position. Alors ça, c'est par ordre d'importance de produits générés, réalisés. Ça ne veut pas dire que c'est les marchés les plus porteurs. Je m'explique, vous avez ici un marché qui est celui, par exemple, de la défense, qui arrive donc en huitième position et qui représente un marché très, très petit à côté de celui, par exemple, de l'éducation. Pourtant, il est beaucoup plus lucratif, puisque le marché de la défense propose des serious games qui valent plusieurs millions d'euros, alors que les œuvres produites dans le cadre de production caritative sont souvent réalisées par des étudiants dans le cadre de concours et faites par des particuliers totalement gratuitement. Alors, si on s'intéresse aux chiffres qui sont en lien avec le monde de la santé, en 2010, on peut trouver qu'il y a une répartition selon les différents fonction utilitaire que je vous ai définie. Donc, c'est-à-dire que si on se situe dans le domaine de la communication, prévention, formation, R&D et thérapie, on voit qu'on a quelques titres que je vous ai présentés qui se répartissent dans ce tableau. Mais il y a aussi des cases vides, un peu comme dans le tableau de Mendeleïev. On a la possibilité d'investir de nouveaux types de marchés, comme par exemple, qu'est-ce qui se passe pour la communication avec les chercheurs, par exemple ici. On n'a pas d'application qui ont été à ce jour identifiés. Donc vous voyez qu'on a plein de choses qui peuvent être explorées, qui peuvent faire l'objet de nouvelles productions et qui peuvent donc potentiellement faire l'objet de travaux de recherche. En termes de chiffres maintenant, d'après Stéphane Nègre, le PDG d'Intel France, le marché mondial global de la santé représente 755 milliards d'euros ou 1000 milliards de dollars. Et donc sur ce marché, quand on s'intéresse au marché du online, on est entre 188 et 377 milliards d'euros, toutes infrastructures confondues. Celui du marché de la santé représente à domicile représente 7,55 milliards de dollars. d'euros, pardon. Et en fait, on s'aperçoit que la part estimée du Serious Game aujourd'hui ne représente à peine que 0,1 milliard, c'est-à-dire 100 millions, d'accord, d'euros. Donc, c'est-à-dire que là, on pense que le Serious Game dédié à la santé, c'est-à-dire le marché des Health Games, est un marché prometteur avec un fort potentiel de développement. Voilà ce qu'on peut dire sur ces notions chiffrées. Et si vous voulez en savoir plus, nous vous attendons sur le stand donc, qui se trouve à l'entrée de Segamed. Et je vais laisser la parole maintenant à Michael qui va prendre la suite. Voilà, donc Sandra sur la photo qui est dans la salle vous accueille donc sur le stand du Play Research Lab si vous avez des questions. Merci.
Merci Juliane. Alors moi je vais finalement tenter un petit peu de rentrer dans des processus finalement d'ordre psychologique, un petit peu motivationnel sur, au fond, en quoi le Serious Game pourrait avoir une efficacité ou en quoi est-il peut-être plus séduisant que d'autres manières d'envisager l'éducation thérapeutique, etc. Alors, moi, simplement pour information, j'ai une formation de psychologue, psychanalyste. La petite originalité, c'est que j'ai une formation de cinéaste et que j'étais scénariste. Donc finalement, tout ça a fait que j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé les images et qui, lorsque les jeux vidéo sont arrivés, au-delà du serious game, je me suis étonnamment très vite rendu compte que, au-delà de la dimension sérieuse, finalement, beaucoup de gens, d'après moi, lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo, se soignent. Mais parce que le jeu, au-delà du jeu vidéo, a toujours eu une vocation thérapeutique. Ça veut dire qu'au fond, nous vivons tous et toutes la journée des situations de dévalorisation, de tension, de stress, etc. Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, au fond, c'est là où le jeu, et entre autres le jeu vidéo, m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'au fond, lorsque je vais jouer à Call of Duty, par exemple, après avoir été flingué toute la journée par mes patients, eh bien, je peux, par des phénomènes de projection, d'identification, quelque part, fraguer, flinguer, peut-être, en tout cas, avoir une forme de revanche sur des situations. J'ai même vu, et là, je fais référence à un grand monsieur du jeu vidéo français qui s'appelle Nicolas Gaume, qui a été le patron d'une très grande société qui s'appelait Callisto, et qui est monté très, très haut, mais qui est descendu malheureusement très, très bas, et qui raconte dans son livre, qui s'appelle Citizen Gaume, qu'à un moment où il était vraiment très très bas et qu'il était vraiment dans un processus de dépression, il jouait énormément à Mario. Et au fond, comme le Mario, il sautait double sauté, ça lui permettait peut-être, au fond, d'intégrer une sorte de frustration nécessaire, parce que le jeu vidéo, c'est pas évident de gagner, avec une valorisation. On aurait presque envie de se dire qu'un jeu vidéo serait comme une sorte de petit laboratoire qui me permettrait d'accepter la frustration pour pouvoir avancer. Je vais même plus loin, je pense que le jeu vidéo nous propose quelque chose de très rare, c'est que c'est en perdant qu'on apprend à gagner. Et ça, en général, dans notre société de rentabilité, de performance, on a peu le droit de perdre. Et je pense que c'est important. Alors, je vais rentrer un petit peu quand même dans cette idée. Donc, finalement, il y a déjà tout simplement, au-delà de la santé, l'idée que jouer avec une information permet finalement l'appropriation. Et là, je suis vraiment en lien avec le colloque. Cette idée que l'appropriation est quelque chose de très important. Mais l'appropriation, qui est celui, par exemple, d'un professeur qui nous donne une information, en général, ça ne fonctionne pas toujours très très bien. Et d'ailleurs, je dis ça, mais là, il s'avère que parallèlement, je travaille aussi pour l'éducation nationale. Et dernièrement, il y a un jeune étudiant qui a lancé une start-up complètement étonnante qui fait que pour beaucoup d'étudiants, d'ailleurs c'est aux États-Unis, qui passent 3-4 heures à écouter un prof et qui s'ennuient terriblement, la manière de s'approprier le cours, c'est de le tweeter. Et en tweetant le cours et en faisant que les tweets vont être rassemblés dans un document, eh bien finalement c'est la manière dont l'étudiant va pouvoir s'approprier ce que dit ce professeur. Pas forcément sur la couleur de sa chemise, mais plutôt sur le contenu de son cours. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va bien au-delà du jeu, c'est-à-dire le fait de jouer avec une information et finalement pouvoir réellement l'intégrer pour soi par rapport à sa propre histoire. Et c'est vrai que ça met à mal, en quelque sorte, ce rapport vertical que l'on a, pourquoi pas avec un médecin, que l'on a, pourquoi pas avec un professeur. Et ça, c'est quelque chose de très, très nouveau. Autre chose tout à fait intéressante, c'est, et ça rejoint un peu ce que je disais, c'est la question de l'erreur. Au fond, et j'ai un petit exemple, puisque Ubisoft avait travaillé sur un jeu qui s'appelait Food Force, qui était un jeu qui était censé sensibiliser les enfants à la faim dans le monde, en leur proposant un jeu où un avion balançait finalement des colis sur une cible prédestinée, et autour de cette cible, la population locale qui avait un besoin vital de ces colis. Et donc moi j'ai observé les enfants jouer à ce jeu, et c'était très intéressant parce que les enfants, le but du jeu pour les enfants n'étant pas forcément de bien viser la cible, mais c'est surtout de bien viser la population locale autour de la cible afin de l'écraser. Donc ça c'est tout à fait intéressant parce que premièrement on apprend que dans tout jeu il y a toujours une émergence des pulsions agressives, et comme vous le savez les enfants ne sont pas sages comme les images, et je dirais même qu'ils sont un peu sadiques sur les bords, et que finalement après coup il y a une étude, un questionnaire qui a interrogé ces enfants pour se rendre compte qu'ils ont été très sensibilisés à la faim dans le monde. Ça peut paraître paradoxal mais c'est comme ça très souvent que se situe la question du jeu. Il y a aussi, évidemment, et ça c'est assez banal, et c'est d'ailleurs plutôt des processus de game design, c'est cette courbe de progression que l'on a dans un jeu qui fait qu'au fond, on a bien sûr envie de progresser. On a envie de passer d'un niveau 1 à un niveau 2. Et ce désir d'aller plus loin est finalement un processus de game design tout à fait important à utiliser dans le cadre de n'importe quel serious game, et d'autant plus dans le domaine de la santé, où parfois on se retrouve dans des jeux où c'est pas toujours si évident, parfois quelque part trop didactique. Donc l'idée de créer ce désir de cette stimulation de progresser est essentielle dans tout serious game. Alors, évidemment, et je crois que c'est peut-être une des choses les plus importantes, c'est la question de la valorisation. Valorisation narcissique, valorisation dans l'idée qu'au fond, ce qui nous permet d'accepter la frustration, d'accepter toutes ces choses-là, c'est la valorisation. Alors, au-delà du fait que lorsqu'on est un patient chronique ou autre, on est quasiment au-delà de la valorisation, on est soi-même dans une position terrible. Et au fond, il est important d'envisager que la valorisation que propose le jeu va permettre, pourquoi pas, à certains patients de sublimer leur corps malade. Et ça, on l'a vu, par exemple, évidemment, dans ce qu'on a vu, les Wii thérapeutes qui ont énormément utilisé la Wii dans le cadre de maisons de retraite, mais même ce que fait, par exemple, Mojos avec le programme pour les patients atteints d'AVC, c'est-à-dire qu'au fond, il faut trouver un outil motivationnel avec un espace de valorisation pour qu'ils acceptent ces exercices qui, d'habitude, sont incroyablement douloureux et qui vont leur permettre d'accepter avec plus de facilité les choses. Alors, c'est évident que là, il y a des applaudissements, en général, à la fin de nos interventions. On aimerait bien, comme dans les jeux de Nintendo, qu'il y ait des étoiles et des étincelles partout, avec une musique colorée, qui fasse, parce que ça nous arrive quasiment jamais. Hein. Donc, moi, quand j'aide un patient qui va un peu mieux, jamais je n'ai, tel Mario, des étoiles qui nous entourent. Simplement, peut-être parfois un billet à la fin de la séance, mais c'est un autre problème. Donc, bon, néanmoins, voilà, on est quand même toujours la question où se situe notre valorisation et comment le jeu va nous mettre en scène de la valorisation alors que d'habitude, il n'y en a pas. Alors, évidemment, et ça c'est essentiel, c'est pour vous dire à quel point le jeu c'est sérieux. Et un bon jeu, c'est un espace où on est dans le faire comme si, on est dans un espace symbolique et du faire semblant. Et lorsque vous croisez un petit enfant avec un bâton, et que vous lui dites « mais que fais-tu avec ce bâton ?», il vous regarde souvent avec un grand mépris pour vous rappeler que non, ce n'est pas un bâton, c'est l'épée du roi Arthur, et qu'il est en train de se battre contre des monstres. Donc ça veut dire que c'est important de nous rappeler qu'au fond, l'espace du jeu est un espace profondément sérieux du point de vue de la fiction. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis plutôt d'orientation psychanalytique, très ouvert aussi aux approches cognitives. Mais ce qui est peut-être parfois intéressant dans ce que je peux voir comme jeu, c'est que l'hyper-réalisme que je vois dans certains jeux, dans des processus psychiques profonds, serait l'idée, pourquoi pas, qu'un jeu pourrait, pourquoi pas, aider à quelqu'un à changer de comportement, Plus on est dans le réalisme, en général, moins vous touchez quelque part des zones profondes. Et je pense, entre autres, à un jeu que tu vas montrer, je crois, Aurore, qui est tout à fait intéressant, qui s'appelle Bipolife. Et je trouve qu'il y a qui est censé aider les patients bipolaires à mieux saisir, mieux comprendre, à mieux prendre leurs médicaments. Je trouve que ce réalisme n'est pas à la hauteur, ayant travaillé 7 ans en psychiatrie, de la dimension métaphorique dans laquelle ils peuvent être, qui est celui, entre autres, de la psychose. Et c'est sûr que lorsque je vois... Alors malheureusement, on n'arrive toujours pas à avoir un vrai trailer ou même à jouer à ce jeu qui s'appelle Sparks, qui est un jeu qui, justement, soigne la dépression chez les adolescents, on se rend bien compte à quel point ils sont rentrés d'emblée dans ces univers qui sont proches de World of Warcraft, l'univers de l'heroic fantasy, où finalement chaque étape qui pourrait, par exemple, être celui de l'adolescent, qui sont des étapes pas du tout concrètes, pas forcément réelles, puisqu'il n'y a plus de rituel de passage, et comment parfois ils vont utiliser le jeu comme une forme de rituel initiatique dans lesquels ils se mettent. Je dis ça parce que j'ai beaucoup travaillé sur les phénomènes d'addiction, entre autres à World of Warcraft. Je me répète un peu, évidemment, la dimension motivationnelle est essentielle, l'idée d'activer l'envie fait partie profondément de cette idée-là, et je sais que j'ai cru saisir que vous travaillez sur des interfaces qui permettent aux patients sous morphine, entre autres, de focaliser leur attention ailleurs. Et c'est évident que cette dimension motivationnelle est peut-être un des plus, véritablement, qu'on va trouver dans un jeu. Et là où ça devient intéressant, et ça, je trouve que c'est une piste d'avenir qui n'existe pas vraiment encore, ça serait intéressant de le trouver, c'est-à-dire la question du serious game online. Parce que je crois que c'est à cet endroit-là. Alors je sais que certains ont utilisé World of Warcraft de manière avec une dimension de modding pour pouvoir travailler en réseau. Je pense qu'il y a un avenir tout à fait intéressant et je pense qu'il y a peut-être une voie d'exploration et de recherche sur l'idée que tout ce qu'on peut percevoir de la relation qu'ont les êtres humains virtuellement est d'une telle richesse. J'ai participé avec Aurore et Hélène sur cette ONG de Capital Finance sur la santé et le numérique. On a pu voir à quel point les forums de soutien entre pairs sur Doctissimo, par exemple, ont une puissance étonnante de soutien, mais aussi de pouvoir se battre ensemble, de pouvoir avancer ensemble, etc. Alors, ça, pour finir, parce que c'est quand même notre maître à tous, disons, je parle pour les psychanalystes, cette idée qu'il n'y a pas d'apprentissage sans expérience hédonique, ça me paraît assez évident. Je crois que profondément, c'est parce qu'il y a un plaisir qui est associé à un savoir que le plaisir va être intégré. Et je crois que peut-être... Oui, le savoir, qu'est-ce que j'ai dit ? Mais finalement, les deux. Mais c'est grâce au plaisir que le savoir peut être intégré. C'est le problème, parfois on est tellement dans le plaisir. Oui, peut-être la réciproque. En tout cas, c'est parce que tout ça permet... voilà, donc là j'ai été un peu troublé. Donc oui, en effet. Alors, c'est sûr que justement, on ne peut pas le délier. Et c'est sûr que ça vient un peu perturber beaucoup de choses dans notre rapport à l'idée, par exemple, que la santé est normalement une chose profondément grave et sérieuse. Et paradoxalement, qu'en est-il de l'idée qu'un patient devienne joueur ? Alors, on peut pas vous montrer parce que je travaille, comme vous avez pu le voir, pour une société qui s'appelle Manzalab. On vient de terminer un petit jeu pour les patients dialysés pour Sanofi. Et ça paraît fou de se dire, tiens, pendant que je me fais dialyser, je vais jouer à un jeu qui va me permettre de mieux comprendre ce qui m'arrive, etc. Donc avec une dimension presque addictive. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger, parce que finalement, soyons honnêtes, c'est quand même les donneurs d'ordre qui, eux, vont financer ce qu'on va faire, mais à quel point est-ce que ces personnes, à un moment, vont prendre des risques. Juste pour le dire, voilà, c'est peut-être pour le moment la seule référence dans le domaine de l'évaluation, dans le domaine du serious game en santé, comme vous le savez, ce jeu Rémission, qui a montré que grâce à ce jeu Rémission, quasiment 100% des adolescents qui ont joué à ce jeu ont eu une meilleure observance et une meilleure compliance, qui est en soi tout à fait intéressant, parce que finalement ça leur a permis de redevenir acteurs de leur santé, d'être plus intelligents par rapport à leur santé, et de ne pas être dans une position infantile, très régressive, face à un cancérologue qui lui sait tout, où le patient lui ne sait rien, et n'est que entre les mains du docteur. Et ça je pense c'est important, et juste pour information, puisque je l'ai reçu il y a 2 jours, un des patrons de Sanofi m'a envoyé un article qui est paru dans la revue Nature, avec un véritable protocole de recherche et des EEG pour montrer à quel point certains jeux vidéo ont permis à des personnes âgées de pouvoir réenvisager plutôt une sorte de remédiation cognitive pour pouvoir mieux envisager le multitasking. Et ça, ce qui est un bon, je pourrais pour ceux que ça intéresse parce que c'est tout nouveau tenter de le montrer, mais voilà, et c'est vrai que ce que fait Juliane, ce que fait Hélène, c'est-à-dire ce travail d'évaluation est tout à fait essentiel pour que finalement, à un moment, on puisse dire, attendez, c'est sérieux tout ça. Il y a des choses, des articles, des recherches qui prouvent l'efficacité. Alors, voilà, pour dire les choses, c'est la raison pour laquelle moi-même j'ai inventé un concept de jeu. Je ne veux pas en parler maintenant, ça sera un peu long. Mais ceux qui le souhaitent, pourquoi pas, je pourrais leur en parler. Et s'ils ont 250 000 euros, pourquoi pas aussi. Alors, sinon, à part ça, juste sur les petits projets sur lesquels moi je travaille, on travaille entre autres sur l'idée de l'utilisation de la Kinect pour des enfants autistes, puisque des enfants autistes de Canner, ça sera assez compliqué à rentrer, mais j'ai moi-même utilisé à l'époque la iToy avec des résultats tout à fait étonnants. L'idée même de l'utilisation du concept de Tamagotchi pour l'observance est une chose tout à fait intéressante, et maintenant grâce au portable, le push and click me permet concrètement d'avoir tout le temps sur moi, un bip qui me rappelle à quel point je me dois ou non de prendre un médicament, mais avec l'idée que si je le fais, j'ai des points supplémentaires qui peuvent enrichir mon avatar, qui va rejoindre une communauté sur Internet, etc. Donc finalement, il est possible maintenant, à l'heure actuelle, d'envisager les allers-retours entre le portable et les réseaux sociaux. Et là, peut-être, c'est la chose sur laquelle moi j'ai travaillé, c'est-à-dire, au fond, on a commencé à réfléchir à un concept qui s'appelle self-care, dont le but est d'accompagner, c'est un accompagnement ludothérapeutique, on pourrait dire social therapeutic game, pour aider des personnes ensemble à combattre des problématiques comme, entre autres, là, il s'agissait de l'obésité, d'alimentation. On peut travailler d'autres choses. Donc c'est vrai que là, pour le moment, tout ça est à inventer, tout ça à imaginer. Il y a des choses qui se font, et je pense que il est important d'envisager à nouveau le jeu comme quelque chose de tout à fait sérieux. Voilà, merci.
Alors, je suis persuadé que vous n'attendez que cela, que de poser quelques questions. Et ce sera avec grand plaisir que Michael y répondra. Non? Alors j'en ai une pour amorcer, parce que c'est toujours difficile la première question. Tu nous as parlé de cet article de Pediatrics. Et tu nous as parlé aussi de ce petit garçon déguisé en pirate qui te dit que l'épée qu'il a dans les mains, c'est l'épée du roi Arthur. Est-ce qu'on peut transposer la conclusion de Pediatrics à tous les patients cancéreux, adultes. Et cette image du petit enfant qui, finalement, rêve. Parce que, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas cela, j'ai pas vu le terme de rêver, et ça, on rêve, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire, qu'on n'arrive pas à faire, et qui nous challenge quand même. Alors, voilà, je lance la question sur ça. Alors, c'est peut-être un peu difficile à répondre. En tout cas, c'est une remarque. Est-ce que dans Cancer, on verra dans 10 ans des cohortes de patients plus adultes ayant l'expérience de la vie, et la vie n'est pas aussi, entre guillemets, rêveuse qu'on ne l'imagine. La maladie rappelle, on va dire, à ces patients un certain nombre de réalités. Donc, voilà, on était sur une warm-up session un petit peu philosophique. Pardonne-moi,
ce qui est terrible, c'est en effet à quel point un patient atteint d'une maladie chronique est renvoyé avant tout comme un corps malade. Et à quel point des études ont montré qu'il y a au fond une forme de désorganisation de son appareil mental avec une pensée qui devient très opératoire. Il y a un manque d'imaginaire qui apparaît. Et au fond, comment des médiations, pourquoi pas des serious games, pourraient les aider à finalement non pas rêver dans le sens de d'être un autre et de ne plus être malade, parce que ça on est dans autre chose, mais au fond de pouvoir redevenir moins dans une position passive, on pourrait, vous voyez, c'est très compliqué et ça dépend à quel moment de la maladie, etc. Je dis ça pourquoi, parce que je fais partie du réseau cancer du sein de la Pitié-Salpêtrière où je soigne des patients et on voit bien comment ces patientes là à un moment, vont mettre du sens sur ce qui leur est arrivé, vont tenter de redevenir actrices de leur vie. Et je crois que c'est important de pouvoir imaginer qu'au-delà du jeu, comme disaient certains de mes collègues, vous savez, on dit que le jeu permet de dire je. Donc permet de redevenir sujet de sa vie. Et c'est ça que moi je repère dans le jeu vidéo, c'est qu'au fond, les processus d'identification à l'avatar sont massifs. Je suis l'avatar. Certains disent que c'est une coquille vide dans laquelle je me glisse. Je suis l'avatar. Et donc, très souvent, notre travail en tant que thérapeute, c'est d'aider les patients à affronter quelque chose d'un monstre, d'un cauchemar. Et il y a des fois où on peut se demander, d'ailleurs c'est marrant parce que tu as présenté le jeu Élude. Moi, c'est un jeu qui m'a complètement étonné. Ce jeu qui va nous sensibiliser à ce que peut être la dépression. Et c'est très métaphorique, hein, parce que le personnage s'enfonce dans des limbes, etc. Et c'est vrai que, voilà, la question de la visualisation qui, parfois, nous manque, mais en même temps, qui fait qu'on est dans un espace, quand même, qui est proche du rêve. Et beaucoup de mes collègues s'interrogent de plus en plus sur est-ce que le jeu vidéo ne serait pas comme une expérience d'un rêve éveillé? Comme si je pouvais, finalement, rentrer dans un rêve et pouvoir imaginer affronter certaines des représentations qui, d'habitude, sont terribles. Voilà. C'est pas une réponse exacte, mais voilà.
Alors, ce qu'on peut faire comme complément de réponse par rapport à ça, c'est que nous, on vient de présenter une expérimentation qu'on a menée dans le cadre du Play Research Lab sur les imaginaires. Et on s'est posé la question, justement, de savoir qu'est-ce que c'était que l'imaginaire face à du jeu vidéo. Où on situe le jeu vidéo. Et alors, en fait, si on reprend les écrits de Jean-Paul Sartre, il nous parle de l'analogone, qui est justement cet intermédiaire entre l'imaginaire et le réel. Et entre les deux, on a... Voilà, tout à fait. Et donc, à partir de là, on se demandait si le jeu vidéo, c'était pas, finalement, la possibilité de se faire la représentation de cet analogone. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, l'expérimentation qu'on a menée, concrètement, c'était de se dire... est-ce que les joueurs pionniers, c'est-à-dire ceux qui ont débuté l'activité vidéoludique dans les années 70 et les années 80, avaient finalement, face à des jeux de première génération, un imaginaire qui était plus développé que les joueurs d'aujourd'hui, les joueurs actuels, ceux qui sont confrontés finalement à des représentations hyper réalistes, comme on peut le voir avec les consoles de jeux de 7e et 8e génération, PS4 qui arrive, la Xbox One, tout ça. Et donc, on a fait une analyse, une expérimentation lexicométrique, et on s'est rendu compte qu'en fait, non, les jeunes générations ont un imaginaire qui est beaucoup plus développé et partagé, plus riche que les joueurs pionniers. Donc, à partir de là, ça pose des questions. On pensait naïvement qu'avec des représentations de plus en plus poussées, ça allait constituer une véritable prothèse à l'imaginaire.
Moi, je rajouterais juste une chose, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir, par exemple, le succès étonnant qu'a Minecraft. Où Minecraft est quand même un jeu qui fait penser à quelque chose de très rétro-gaming, avec une simplicité terrible, et ça a un succès, mais fou, auprès d'un nombre d'enfants, d'adolescents. Et en même temps, alors, moi, j'ai soigné pendant 10 ans des enfants avec des jeux vidéo, et j'ai toujours été étonné, ça a été une preuve de la question de l'imaginaire, puisque je me souviens dans un jeu Fable, où il y a un monstre de terre, pour ceux qui ont joué à Fable, il y a un monstre de terre qui vous lance des rochers bien forts, et tout d'un coup, je me souviens de cet enfant qui n'arrivait plus à jouer, qui a dit « Mais ce monstre-là, c'est un homme ou une femme ?» Et alors, j'ai pas la photo du monstre, mais à aucun moment vous imaginez qu'il est sexué. Hein. Et donc, à un moment, il zoome, et il voit plein de poils au niveau, on imagine du pubis, ah ben ça c'est une femme. Et après, je ne vais pas vous raconter toute son histoire, mais c'est voir à quel point on transforme les personnages. Mais encore faut-il qu'il y ait une dimension un peu floue presque, métaphorique. Même si c'est vrai que l'hyperréalisme, parce que ton étude montre que finalement, paradoxalement, l'hyperréalisme n'enlève rien à l'imaginaire. Donc c'est-à-dire qu'à l'inverse de ce que disait Sega, l'être humain continue à rester plus fort que... Est-ce qu'on ouvre le jeu?
Après, pour compléter ta remarque sur le jeu comme Minecraft. On a par exemple Marcel Jouvent qui travaille donc notamment sur les aspects cognitifs. Il fait de l'imagerie médicale pour essayer de comprendre comment le cerveau simule les actions avant de rentrer justement dans un processus d'action moteur. Et il recommande fortement justement l'emploi d'images non réalistes pour permettre justement le développement de l'imaginaire. Donc, on n'a pas tous les éléments de réponse, mais en tout cas, il semblerait que les jeux actuels avec des images hyperréalistes ne soient pas un frein, mais en parallèle, il vaut mieux utiliser aussi des jeux avec des représentations plus modestes, plus simplifiées.
Il y a une question là-haut, je suis désolé, elle n'est pas facile, hein, mais tu t'y attendais, Michael. Tu as parlé des jeux online tout à l'heure, je pense que tu voulais parler des jeux multijoueurs online, avec plusieurs personnes qui vont être regroupées ensemble en simultané, qui vont agir, et puis bah, en fait leurs actions vont se répercuter sur ce qui se passe vis-à-vis des autres. Moi je suis très intéressé par toute la prospective sur le Serious Game, puisque je suis bien évidemment au cœur du domaine, et j'aimerais que tu détailles un tout petit peu plus ta vision là-dessus et que tu nous expliques ce qu'on peut essayer d'imaginer, peut-être avec un parallèle dans le monde de la santé, ou même d'une façon générale, comment est-ce qu'un serious game multijoueur online synchrone peut convoyer un message, collecter des données, former, évaluer, sensibiliser.
Alors c'est là mon idée, c'était un jeu multijoueur asynchrone, parce que synchrone, ça demanderait à ce que des patients joueurs de plusieurs villes de France ou voire même se réunissent à la même heure. Ce qui serait très complexe, même si sur World of Warcraft, on sait que les mecs se réunissent à 20h pour faire leurs instances jusqu'à minuit. L'idée que j'ai eue, c'était un moment de créer un jeu donc pour des problématiques d'obésité et que finalement, entre autres enfants, adolescents, en reprenant trois grands espaces de recherche. Premier temps, l'addiction que j'ai pu repérer sur World of Warcraft, les éléments addictogènes. Deuxième chose, tous ces forums de soutien entre pairs chez Doctissimo, voir tout ce que font les gens des alcooliques anonymes. Et troisième chose, la puissance du jeu vidéo comme espace de projection. Et en fin de compte, l'idée, c'était quoi? C'était de créer une histoire très métaphorique, parce que j'ai moi-même reçu beaucoup de patients obèses, donc on retrouve une clinique qu'il est possible de scénariser, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes figures, etc. On retrouve finalement l'idée que chez le patient obèse se pose la question de qu'est-ce que représente? Est-ce que c'est une carapace ou une armure? Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas un moment que je perds? Donc l'idée, c'était de créer un jeu qui ressemble à des RTS, donc Age of Empires, première phase construction d'un camp, à l'image du corps obèse, un camp bien important avec un mode de défense. Deuxième phase, destruction totale du camp. Et troisième phase, contre-attaque. Parce que finalement, la plupart des patients qui ont des problématiques d'inhibition, souvent, se sentent très coupables de leurs pulsions agressives. Et le jeu est très intéressant parce qu'il permet de jouer avec ces pulsions agressives. Je ne sais pas si certains connaissent le jeu Bayonetta ici. C'est génial. Il est génial. Si on est une jeune femme un peu timide, vous jouez à Bayonetta, c'est étonnant. Parce que vous êtes une killeuse, vous passez votre temps à tuer des anges au purgatoire avec des attaques sadiques. Et j'avais une collègue qui était un peu adorée. Donc on voit bien comment le masque, hein, c'est l'effet balle masquée, ça me permet d'être cet autre, mais cet autre c'est moi. Je peux jouer avec ces pulsions agressives. Et en gros, l'élément qui rassurait un petit peu, c'était qu'au bout d'un certain nombre de temps de jeu, tu rentres des données réelles dans le jeu, IMC, éléments de vie, qui vont enrichir le jeu. C'est-à-dire qu'au fond, comment le réel va venir enrichir le virtuel? Parce que je pense que c'est ça les grandes réflexions, c'est comment, quels sont les ponts entre réel et virtuel, et comment l'un et l'autre peuvent s'enrichir, et d'où l'idée d'introduire des données réelles que feraient les parents, parce que les parents sont très importants à mettre là-dedans, et finalement tout ça enrichirait l'aventure. Et par exemple, un petit exemple, c'est qu'il n'y aurait pas de jauge individuelle de vie. La jauge serait groupale. Parce que tout le risque étant que ce qui se passe un peu dans certains MMO, c'est que les joueurs sont beaucoup dans la compétition même entre eux. Alors que ce que je trouve très intéressant, c'est quand il y a une jauge groupale qui fait tout d'un coup, on se bat non pas pour soi, mais pour la communauté. Et ça, c'est cette idée. Maintenant, il faut trouver les moyens de le faire. Donc je compte sur toi, Laurent. Non.
Merci, Michael. Une autre question? Donc vous avez un jour et demi, deux jours et demi pour rêver, refaire un imaginaire et voir dans ces sessions la façon d'aborder. Alors, jeu serrier.
Je peux rajouter quelques compliments pour cette question. dans le cadre d'un jeu qu'on a développé avec Orange, on était parti sur un jeu multijoueur, mais pour quatre. Déjà, réunir quatre personnes pour jouer à un même serious game, c'est un challenge. Mais on arrive à trouver des gens qui se réunissent. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir quatre avatars qui sont enfermés au fond d'une benne parce qu'ils présentent un handicap. Chacun présente un handicap. Donc, ce sont quatre téléphones mobiles. Et il y en a un, il a tendance à se décharger trop vite. Un autre, il a des courts-circuits. Un dernier, il a une batterie trop lourde, donc ça l'empêche de sauter trop haut, etc. Et en fait, l'idée, c'est que si les quatre personnages, les quatre joueurs, en fait, s'unissent, ils arrivent à combiner leurs défauts pour en faire une force. C'est ça l'idée. Et donc, dans ce jeu-là, en fait, on s'est aperçu que, avec toute la belle philosophie qu'on avait mise en œuvre, en fait, ce qu'on voyait apparaître très rapidement, c'était bon, écoutez, c'est qui ce boulet là qui n'arrive pas à jouer, c'est pas possible. Et en fait, on a obtenu exactement l'effet inverse, c'est-à-dire que des joueurs qui étaient très très bons et qui avaient l'habitude de pouvoir passer des niveaux avec des jeux de plateforme classiques, se sont retrouvés mais complètement stressés et ennuyés par des joueurs qui s'initiaient à ce type de jeu. Et donc, il y avait dans la messagerie des mots, des reproches qui revenaient régulièrement. Et donc, c'était une étude assez, assez drôle sur l'impact que pouvait avoir ce jeu, qui se voulait collaboratif, coopératif. Voilà. Et là, pour le coup, on n'a pas eu l'appropriation recherchée.
Merci de vos expositions. Et j'ai une question pour vous. J'aimerais bien savoir votre avis parce que maintenant, vous nous avez montré pas mal d'exemplaires de jeux vidéo sur le Serious Game. Mais maintenant, les enfants, ils commencent à utiliser les dispositions pour jouer aux jeux vidéo en Serious Game. De plus en plus jeunes que les enfants soient. Donc, j'aimerais savoir vos avis sur le fait comment vous contrôlez vos enfants de ne soient pas addictifs avec les consoles, les tablettes.
Voilà. Je parle avec tes enfants. Comment tu fais avec tes enfants?
Alors, je vais être le mauvais élève. En fait, je me suis servi de mes enfants beaucoup pour mener des expérimentations. Donc, dès l'âge de 6 ans, j'ai honte, mais je vais me confesser en direct, j'ai mis mon fils aîné sur des jeux comme Call of Duty. Si, si, 6 ans. Si, si. Et en fait, je me suis aperçu qu'il était extrêmement bon et qu'après avoir joué, quand je lui demandais de sortir du jeu, il reproduisait le mouvement et les défauts qu'avaient les avatars quand ils se déplaçaient. Donc, moi, c'était intéressant pour justement voir un petit peu comment s'opéraient les transferts. Ensuite, j'ai fait une autre expérience. J'ai voulu savoir comment on pouvait voir le transfert, la transmission de messages à travers des serious games. Et je les ai mis sur un jouet vidéo qui s'appelle September the 12th, qui a été développé par Gonzalo Frasca et qui dénonce le problème justement de la façon dont on essaie de combattre le terrorisme actuellement suite aux attentats du 11 septembre. Et mes deux enfants, là, pour le coup, je les ai mis sur ce jeu et je me suis aperçu qu'ils n'ont pas du tout vu les objectifs de l'auteur. Ils ont tout dégommé et ils essayaient de tout détruire alors qu'il fallait juste peut-être se concentrer sur le terrorisme. Ils ont cherché le petit chien qui se cachait derrière les tables et ils l'ont démoli à coups de roquettes, etc. Et là, j'ai compris qu'en fait, si on n'a pas vécu ou si on n'a pas connu les attentats du 11 septembre, on ne peut pas être réceptif aux messages que diffuse ce jeu. Donc c'était des expérimentations comme ça qui ont été menées. Donc je suis peut-être pas le bon exemple. Mais le petit conseil que je pourrais donner, quand on cherche à faire en sorte que on veuille appeler ses enfants à table et qu'ils sont scotchés devant les écrans, qu'ils ont du mal à sortir de là, plutôt que de leur dire brutalement « bon allez, on éteint tout et on passe à table », prévoyez un petit sas de décompression de 5 minutes, c'est-à-dire monter dans la pièce où ils sont en train de jouer, asseyez-vous à côté d'eux, posez-leur 2-3 questions sur ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont être ravis de partager ce petit moment avec vous. Et naturellement, quand vous allez leur dire « bon, mais maintenant, ça serait sympa de passer à table », ils vont le faire. Voilà. Plutôt que de dire « éteins, passe à table », où on peut être sûr que ça va être conflit, parce qu'à un moment donné, on a une rupture qui est forte et il n'y a pas ce petit moment de partage qui permet de sortir l'enfant.
Le point commun qu'il y a entre les deux démarches qui semblent un petit peu distantes, d'un côté l'hyperréalisme, pour essayer de mettre les gens en situation d'une réalité qu'on ne contrôle absolument pas, et d'autre côté cet espace de traitement dans un espace dual et simplifié pour travailler à la loupe un problème et exposer à un scénario précis les gens. Comment on concilie ? J'ai l'impression qu'il y a tout ça en fait dans les serious games. Il y a ceux qui sont hyper réalistes et puis il y a ceux qui sont attachés et simplificateurs de la réalité ou onirique ou loin de la réalité. Comment on réconcilie ça et comment on approche cette dualité ?
Après, il y aurait d'un côté l'idée qu'on puisse avoir un graphisme réaliste, mais un scénario, par exemple, qu'il le soit moins. Ça peut être une manière, pourquoi pas, d'envisager des ponts entre les deux. C'est toujours intéressant de voir qu'un monstre a peut-être d'autant plus d'impact si on est dans un environnement réaliste aussi. Je crois que c'est là où se situe un petit peu la puissance de l'imagination des gens qui font les jeux. Après, sur le gameplay en lui-même, c'est peut-être là, et ça c'est vrai que je trouve que c'est une thématique qui est passionnante, c'est-à-dire en quoi le gameplay à vocation sérieuse serait différente. Pour ceux qui connaissent ICO, moi j'ai utilisé ICO, vous savez que dans le jeu, lorsque j'appuie sur la touche R1, je me retrouve à prendre la main de la jeune femme que je dois aider, et je ressens en retour de force son battement de cœur. C'est peut-être un des plus beaux gameplays qu'on a jamais vu. Et c'est d'une intelligence. Donc cette idée de comment réutiliser... Et moi, alors c'est assez intéressant parce que je travaille avec une société qui fait du serious game. Je ne sais pas s'il est là, Clément. Bon, il n'est pas là. Et c'est terrible. Les conflits qu'il y a entre, d'un côté, la cause sérieuse et de l'autre, parce que ce sont des gens qui viennent vraiment du monde du jeu vidéo, la cause du jeu vidéo. Et comment travailler entre les deux, comment le gameplay est presque à l'interface, justement, de l'idée qu'un acte aurait une valeur symbolique. Ce qui, en soi, est quand même bizarre, parce que normalement, un acte, c'est un acte. Mais comment un acte va raconter une histoire en elle-même? Et c'est peut-être là où se situe, je trouve, peut-être un des éléments de réponse de votre question.
Merci beaucoup Julien, merci Michael.